Bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous vous proposons le récit de ces gens qui un jour décident de quitter travail, maison, amis et famille pour vivre l'aventure à l'image de Jonathan Salamon, parti faire le tour de l'Amérique latine, ou aussi Éric Lobo, ancien agent immobilier devenu explorateur spécialisé dans les expéditions à travers le monde. Vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com. On se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. A tout de suite et surtout, restez avec nous. Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui avec notre motarde en or, Patricia, on parle lecture avec Jonathan.
Donc il y a Jonathan Salamon. Jonathan, donc auteur de récits d'un joueur itinérant. C'est un livre très dense que je trouve très riche également. Plus de 400 pages avec de nombreuses photographies.
Et il ne raconte que la moitié de mon voyage, en fait.
Voilà. Et donc, on pourra en parler largement pendant toute l'émission. Mm-hmm. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Donc, Jonathan, ton livre, il est issu d'un blog qui a eu beaucoup de succès. Ouais.
World Poker Trip, ça s'appelait. Mais bon, avant d'être un livre, avant d'être un blog, c'est surtout un voyage, quoi.
Voilà.
C'est un récit de voyage, c'est une sorte de journal intime dans lequel je racontais un peu tout ce qui m'était arrivé pendant les 2 ans et demi durant lesquels j'ai traversé l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale à moto.
Voilà. Et cet itinéraire, il est quand même hors du commun. Parce que tu avais déjà voyagé auparavant.
Ouais, beaucoup. Hein,
voilà,
beaucoup,
tu dis, t'as globalement 7 ans à peu près où tu avais voyagé.
Ouais.
Mais c'était pas du tout dans les mêmes conditions.
Non, en fait, j'avais beaucoup voyagé en stop, j'avais beaucoup voyagé en bus, je voyageais à pied, j'étais un baroudeur, quoi.
Mais
en moto, jamais. J'avais jamais conduit une moto.
Et surtout, parce que, a priori, tu ne pouvais pas savoir que tu allais rencontrer la moto, pendant ton voyage. Hein. Donc, au départ, dans l'idée que tu avais, c'était, moi, je l'ai lu comme ça, une volonté aussi de rupture des amarres.
Oui. En fait, j'étais architecte, j'avais 25 ans. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out. Donc, j'étais architecte dans le sud de la France et j'ai eu un patron qui m'a un peu mis une très, très, très grosse pression à l'époque. Et moi j'ai fait mon burn-out et en gros c'est posé la question de qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Est-ce que je continue à travailler comme architecte, j'étais architecte, ou bien est-ce que je fais enfin le grand voyage qui me fait rêver depuis que j'ai 18 ans et que j'ai commencé à voyager, à savoir le tour du monde. Et du coup je me suis rendu compte que j'avais 25 ans, que j'étais célibataire, que j'étais au chômage, donc c'était le moment ou jamais, quoi, pour partir. Et
donc,
je suis parti.
Voilà, partir pour un long voyage quand on est au chômage, il faut pouvoir le financer, son voyage.
J'avais la chance, entre guillemets, à l'époque, d'être passionné de poker.
Ouais.
Et en fait, j'avais toujours. C'était aussi un des trucs qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'adorais voyager, mais à peu près à la même époque, j'avais commencé à jouer au poker. Et j'avais toujours été un passionné de poker. Et je me suis demandé si je pouvais pas essayer de financer mon voyage grâce au poker. Et en fait, c'est parti un peu d'une sorte de challenge personnel où je pensais même pas, en fait, pouvoir financer un voyage comme ça. Et j'ai commencé à jouer et je me suis rendu compte que ça marchait bien. Et je me suis dit, on y va, soyons fous et faisons-le, quoi.
Tu gagnais?
Avant de commencer ce voyage, j'étais juste un passionné. Donc, je m'étais acheté un téléphone de temps en temps, des chaussures, enfin, rien d'exceptionnel. Mais au moment, en fait, dans les 4 mois qui ont précédé le voyage, j'ai commencé à jouer un peu plus sérieusement, intensément, un peu de manière professionnelle, on va dire. Et là, j'ai commencé à gagner pas mal. Et...
En gros, t'as mis de l'argent sur la table.
Ce qui est super intéressant pour les gens qui ne connaissent rien au poker ou qui en ont une image assez classique, c'est que on découvre vraiment les côtés techniques et donc effectivement aussi le travail,
parce que tu as énormément
bossé. Et tu parles de l'importance aussi actuellement d'Internet. Internet a été important pendant ton voyage, mais aussi quand tu évoques le poker. Dans l'apprentissage.
Ouais. Moi, j'ai appris à jouer sur Internet. Bon, j'ai appris à jouer à la fois sur Internet et sur les tables réelles. C'est une sorte d'apprentissage parallèle. Sur Internet, on n'a pas de joueurs en face à face sur Internet, donc on est obligé d'apprendre un peu les mathématiques, les statistiques, la tactique pure, quoi. Et puis en live, c'est-à-dire sur des tables réelles, comme on affronte des vrais joueurs en chair et en os, on apprend plus le côté psychologique, le côté ce qu'on appelle les tels, c'est-à-dire le langage corporel, c'est-à-dire que dit le corps, que ne dit pas la voix. Et voilà, donc il y a pas mal d'aspect. Le poker, c'est un jeu qui a plusieurs dimensions et qui sont assez intéressantes à travailler, quoi. Et qui peuvent aider un voyage aussi, d'ailleurs.
Voilà. Enfin, donc, un des éléments qui me fait dire que ton livre est extrêmement riche. Bon, pour les gens qui ne sont pas passionnés de poker et qui s'abarberaient, j'irais, on peut zapper, ces passages-là.
J'ai mis ça en bleu, donc, voilà, pour les gens que le poker saoule, ils peuvent vite passer à la suite.
Oui, il y a certaines parties qui sont plus ou moins accessibles, parce que parfois, c'est vrai que c'est très technique. Alors, c'est intéressant parce que on a tout, je dirais, le glossaire, un peu, les termes, ce que ça veut dire.
Ouais.
Donc,
moi, j'essaie de rester vulgarisateur, quoi. J'ai vraiment, si j'avais voulu vraiment parler comme un joueur de poker pro,
on n'aurait rien compris.
Ouais, vraiment.
Mais c'est comme vulgarisateur, là, c'est c'est réussi aussi. Et donc Internet, c'est aussi très important pour les contacts. Donc ouais. tu évoques ta façon de voyager. Mm-hmm. Tu as recours au Couchsurfing.
Ouais, Couchsurfing. C'est un site Internet que j'utilise, que j'ai commencé à utiliser quand j'ai commencé à voyager, donc il y a 10 ans. Et c'est une sorte de Facebook pour les voyageurs dans lesquels les gens s'inscrivent et ils disent par exemple, bah voilà, je vais à Lima la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'accueillir ou bien m'accueillir chez eux, m'héberger, ou bien tout simplement me proposer de voir la ville ou d'aller boire un verre ou des choses comme ça, quoi. Et moi, j'utilise ça depuis toujours, en fait. Et ça a révolutionné ma manière de voyager puisque, en gros, je vais plus à l'hôtel. Pendant 2 ans et demi, j'ai dû aller à l'hôtel peut-être deux mois ou trois mois sur 2 ans et demi, et le reste du temps, j'étais chez l'habitant. Et ce qui est génial, c'est qu'un jour, on est chez un étudiant, le lendemain, on est chez un entrepreneur, le surlendemain on est dans une famille, enfin bon, à chaque fois on est chez des gens très très différents, et c'est vraiment le voyage à l'intérieur de la culture, enfin via les habitants, quoi. Et moi je fais plus que ça, en fait. J'adore ça.
Ça t'a amené à vraiment la rencontre d'une richesse humaine.
Ah bah oui, toute la sociologie sud-américaine, voilà, je les ai tous rencontrés, pas tous, non, mais voilà, j'ai vraiment rencontré un vaste éventail de personnes, quoi.
Ce que je te propose, Jonathan, c'est qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Oui.
Shaking and it's trembling through the pines. Well, you are. gotta take the shelter of my cabin, little girl, 'cause it's going to be raining outside. Well, it's going to be raining outside. Well, it's going to be raining outside.
Et on retrouve donc le récit d'un joueur itinérant. Et là, on va direct parler de la moto.
Allez.
Allez, donc a priori, on rappelle, hein, tu n'avais pas dans l'idée.
Non, mais moi j'étais pas du tout un motard, quoi. J'avais jamais touché une moto de ma vie avant d'arriver au Paraguay, en l'occurrence.
C'est un coup de poker.
Donc, un règle de poker.
Il faut donc aussi dire que tu as débarqué à Rio.
Ouais.
Hein, tu es resté une certaine.
À la base, je voulais faire un tour du monde. Voilà. Donc à la base, mon plan, c'était j'ai un an, je fais un tour du monde, je le finance par le poker. Et j'arrive à Rio et bon, j'avais envie de voyager comme j'avais toujours voyagé, c'est-à-dire en bus, en autostop, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, le poker, c'est vraiment très 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 bien passé au Brésil. J'ai gagné pas mal d'argent, j'étais content, j'étais heureux. Et je suis arrivé au Paraguay et j'avais pour dire les chiffres, j'avais 2 500 $ dans mon sac. Et le Paraguay, c'est un pays qui est un peu limite, quoi. C'est un tout petit pays qui est enclavé entre le Brésil, l'Argentine et c'était quoi le troisième, la Bolivie. Et c'est un pays dans lequel on n'a pas trop envie d'avoir beaucoup d'argent sur soi, quoi. Et du coup, j'avais envie de dépenser cet argent et je suis arrivé chez mon coach surfeur à l'époque et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des motos partout au Paraguay. Et là, l'idée a commencé à germer. Je lui ai demandé ça coûte combien une moto. Il m'a fait à peu près 1 000 $. Là, j'ai fait sérieux. Et en fait, d'un coup, je me suis rendu compte que c'était rigolo, quoi. Et du coup, je suis parti avec Richard, il s'appelait. On est parti au magasin de moto et puis j'ai acheté une moto.
C'était quoi?
C'était une Leopard Yes 150cc.
C'est une moto chinoise.
C'est que cette moto.
C'était la moto de là-bas, quoi. C'était
même là, moi, ouais. Je connais pas.
C'est une chinoise et inconnue, quoi.
Pour évoquer un petit peu les caractéristiques techniques de cette moto, dis le nom que tu lui as donné d'emblée.
Elle s'appelait Parkinson. Parce que dès qu'elle a dépassé les 40-50 km, elle tremblait plus possible, quoi. C'était en vrai, si on parle d'un point de vue de motard un peu sérieux, c'était un très 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 mauvais choix de moto, parce que c'était vraiment pas une moto faite pour voyager, quoi. Mais bon, en même temps, comme je connaissais rien en moto, c'est pour ça que j'y suis allé un peu naïvement, ouais. Comme ça. Mais en même temps, c'était une super idée parce que elle avait plein de problèmes. Pendant les 2000 premiers kilomètres, en fait, tous les 200 kilomètres, j'avais une panne.
Perdais régulièrement quelque chose.
Je perdais des boulons, je perdais réservoirs qui commençaient à fuir, je sais pas quoi. Il m'arrivait tous les 200 kilomètres, sérieusement. Et du coup, j'avais plein de problèmes et du coup j'étais tout le temps arrêté au milieu de nulle part et je rencontrais des gens.
Voilà,
et j'étais hébergé. Et genre par exemple en Argentine, c'était à peu près à 2-3 semaines de voyage, de voyage avec la moto. J'ai commencé à avoir une fuite d'essence dans mon réservoir. J'étais au milieu de rien du tout, quoi. J'avais passé le dernier village depuis une demi-heure et j'étais dans la merde, quoi. Et du coup, j'ai dû vraiment en urgence revenir sur mes pas. Je suis arrivé dans un bled perdu. Et j'ai rencontré un mec qui s'appelait Franco et qui en fait m'a hébergé pendant une semaine dans sa famille, etc. Et c'était génial, quoi. J'ai rencontré sa famille et en fait j'ai eu de la chance. C'était un Syrien qui vivait en Argentine et qui était super sympa. Et en fait tout le début de mon voyage, toutes les galères que j'ai avec ma moto, ça a toujours été une merveilleuse opportunité pour rencontrer des locaux, quoi. Et donc il y avait le coach surfing, mais il y avait aussi c'est la moto qui me permettait également de rencontrer plein de monde, quoi.
Et tu as fait quand même beaucoup de kilomètres en moto.
En tout, ouais. En fait, je sais pas exactement parce que mon compteur aussi est mort. Mais en gros, j'ai dû faire à peu près 40 000 kilomètres sur deux motos.
À évaluer,
sur deux motos. Parce que la première est morte au bout de 20 000 kilomètres.
Alors, voilà. Ce qui est étonnant, effectivement, c'est que tu n'avais pas ton permis, bien sûr.
Ouais.
Et voilà.
Tu roulais sans permis.
La façon de le passer est assez. En fait, il faut remplir des formulaires.
Attends, mais c'est incroyable. En fait, donc j'achète ma moto et je sais pas la conduire. Donc parce que voilà, je sais pas la conduire. Donc c'est le vendeur qui me raccompagne chez mon hôte. Et il commence à me demander, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu sais pas conduire la moto que tu viens d'acheter et tout? Et voilà, je lui explique un peu mon voyage. Et donc, il dit, on va faire un permis, quoi. Et donc, on est allé à la mairie. Et le Paraguay, donc, surtout la ville où j'étais, si vous avez l'Este, qui est la ville frontière, la triple frontière Paraguay, Argentine, Brésil, c'est les villes frontières déjà, c'est déjà un peu chaud et c'est un peu de limite quoi, mais une triple frontière encore plus en Amérique du Sud, on peut tout s'acheter là-bas. On peut s'acheter tout et du coup on peut acheter des papiers aussi.
En gros, on passe pas son permis, on fait un permis.
Je suis allé à la mairie et ce qui est incroyable c'est que c'est légal hein. Je suis allé à la mairie, j'ai donné $15, j'ai donné ma carte de groupe sanguin. Et au cas où, et ils m'ont délivré un permis paraguayen valable pour un an en Amérique du Sud. Voilà. Et après voilà. Et après j'en ai fait un deuxième au Nicaragua. Et là j'ai dû payer un peu plus cher, mais voilà. Voilà. Et donc du coup j'avais mon permis. Je savais pas conduire. Il y a même pas un examen. Il y a même pas. Il pose même pas une question quoi.
Mais
ils te demandent même pas.
Christine, c'est le pied ça. Hein.
Mais en même temps, ça explique aussi pourquoi le Paraguay c'est vraiment un pays hyper dangereux niveau circulation quoi. Enfin, mais après avoir conduit au Paraguay, après avoir appris au Paraguay, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais conduire partout quoi. C'est vraiment une bonne école de la moto au final. Quoi. Donc voilà, mais j'ai un apprentissage qui est purement personnel au final. Quoi. J'ai appris en roulant. Quoi. Voilà.
Mais ce qu'il y a, c'est dès que tu as commencé à rouler avec cette moto, ça a été le choc.
Ah mais c'était génial, c'était je m'attendais pas à des sensations aussi puissantes. Quoi. C'était moi je racontais ça dans le bouquin et c'est un peu dur en fait d'expliquer ça. Vocalement, mais c'est des sensations qui sont c'est la liberté quoi. Moi je me rappelle, j'ai acheté la moto donc j'attendais la plaque. Elle a mis 3 semaines à arriver et je regardais carnet de voyage tout le temps quoi. Je regardais le tché quoi et je me disais c'est bientôt moi. Et en fait c'est devenu moi quoi. C'est-à-dire que je suis sur la moto, je suis à Asunción, il est 2h du mat, je suis tout seul sur le périph qui est vide et en tant que voyageur en plus c'est un sentiment de liberté incroyable quoi. Et ce qui est magnifique avec la moto, c'est qu'on part quand on veut, on s'arrête quand on veut, on dort où on veut. J'avais ma tente. Et du coup, voilà, quoi. C'était, j'étais heureux, quoi. J'étais sur ma moto, j'étais heureux. Et c'est, j'avais jamais connu ça, quoi. J'avais connu la liberté du voyageur, mais là, c'est vraiment une dimension encore plus grande, quoi. C'est encore plus puissant, encore plus intense.
Et au fil des pages, on voit que cette moto devient vraiment une compagne.
Ouais.
Et elle est personnifiée.
Ma moto.
Elle a son nom, mais elle a son âme.
Ouais, elle a son âme et elle devient ma copine, quoi. C'est devenu ma copine. C'est-à-dire que je la tutoie, enfin, je lui parle et je parle d'elle comme, voilà, c'est ma copine, quoi. Et quand elle est morte dans le nord du Pérou, en plein désert, d'ailleurs. D'un coup, en fait, dans le nord du Pérou, elle a claqué. Et j'ai dû la pousser et j'avais trop peur parce qu'il était genre 4h et le soleil commençait à baisser et j'étais dans le désert quoi. Et j'ai eu de la chance quand même parce que je l'ai poussé, je suis arrivé chez un paysan, il m'a aidé, il me l'a réparé pour vite fait avec des fils de fer pour que j'arrive à la ville suivante. Mais à la ville suivante, j'ai dû l'abandonner quoi parce qu'en gros, j'étais en le nord du Pérou et il y avait les montagnes d'Équateur qui m'attendaient. Et je me voyais vraiment pas conduire en Équateur.
Tu lui as tiré une balle dans le phare?
Non. Parce que j'ai pris un couteau, j'ai dévissé le compteur kilométrique que j'ai mis dans mon sac, je l'ai gardé.
Adieu vieux.
Les 16 298 km de Parkinson.
Adieu vieux cheval.
Et je l'ai offerte à la fille qui m'avait hébergé dans cette ville-là, avec qui j'ai une petite histoire d'amour, c'était rigolo. Et du coup, c'était mon cadeau d'adieu.
T'as plein de trucs, hein.
Ah bah il s'est passé plein de trucs.
Poker, la moto, histoire d'amour. C'est vrai, il y a de quoi faire un bouquin.
Bah voilà, il y a un bouquin. Ouais. Il y aura peut-être un film un jour d'ailleurs.
Il y a un film,
on est en train de discuter avec Delaglio en ce moment.
La reprise des transports en commun t'a remotivé rapidement.
Alors du coup, j'ai lâché ma moto dans le nord du Pérou et je me suis dit bon, je vais continuer en bus. Et après avoir fait un an et demi de moto, le bus c'était juste impossible quoi. J'ai tenu 2 semaines et puis 2 semaines plus tard, j'avais pas l'argent pour le faire, mais je me suis acheté ma deuxième moto qui s'appelait Vegas et qui en gros était destinée à arriver à Las Vegas. Quoi.
Mais de la même manière, c'était le flash. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché plus ce côté.
C'était un peu différent technique. En fait. Ouais. La première moto Parkinson, elle était un peu branlante, elle était de mauvaise qualité, etc. C'était une moto, c'était la moto du peuple en fait. C'était la moto du peuple paraguayen. Et j'ai tout de suite flashé là-dessus. Alors que en Équateur, j'étais un peu plus. Je commençais à bien marcher, j'avais mon blog, je commençais à avoir du succès. J'étais un peu plus vaniteux, on va dire, et je me suis acheté une belle moto.
Ah oui, là c'est une belle moto, mais en c'est fait, ce que moto. Je veux
c'est
dire,
200,
c'est.
Hein, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein,
non, mais. Mais d'emblée, tu l'as vu,
Je l'ai vu dans sa petite vitrine, sur son piédestal.
Et voilà, c'est ça. Et elle était belle. C'est surtout ça qui t'a déterminé.
Ah, mais moi, je suis, comme je dis, je suis pas un motard à la base. Donc, moi, mes choix, ils se font sur l'esthétique, quoi. Et voilà, des choix esthétiques. Et je l'ai trouvée belle, je l'ai achetée, quoi.
Et reparti pour la route. On fait une petite pause et on continue juste après.
Ouais, ça marche.
think it is. Baby, let me prove us wrong. Cause all days are numbered. No need to fill me in on the how and why. I see it when it's time to check into Great Rebel Devil in the sky. Great Rebel Devil in the sky.
La moto, c'est tous les dimanches, 11h, 12h30. Aujourd'hui, on est accroché, hein, vraiment, aux paroles de Jonathan. Hein, on rappelle, hein, il a écrit un gros bouquin, parce qu'on l'a sur la table, hein, 400 pages, un beau pavé. Hein, ouais. Ça s'appelle Récit d'un joueur itinérant.
Que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies.
Alors, joueur de poker, motard.
Barman.
Barman, voilà, excellent. Ouais, excellent. Ouais.
Tout ce que tu es, écris-tu, et tous les choix importants que tu as fait depuis cette expérience ont été la conséquence de cette unique shoot,
Shoot de liberté que voilà. J'ai vécu à Asunción.
Voilà, au guidon de Parkinson.
C'est un des moments les plus forts, les plus fous du voyage, quoi. En fait, j'avais acheté ma moto. Mais je pouvais pas la conduire et j'avais des grosses galères de plaques d'immatriculation et il fallait aller à Asunción. Enfin, je l'avais acheté à Ciudad del Este, il fallait aller à Asunción, il fallait récupérer. Bon, c'était un gros bordel. Et enfin, au bout de 3 semaines, je récupère ma plaque d'immatriculation. Donc je fais mes adieux à tout le monde et j'avais rencontré une fille à Asunción. Et j'étais triste. Et du coup, il était 2h du matin, on était dimanche soir, lundi matin, du coup, à 2h du mat. Et je venais de faire mes adieux à cette fille, j'étais triste. Et en fait, le lendemain, je partais en Argentine. J'avais fait mes adieux à tout le monde. Et Asunción était complètement vide puisqu'il était super tôt. Et Asunción, ce qui est incroyable, c'est que c'est une ville qui est hyper congestionnée tout le temps, qui est blindée de bus, etc. C'est vraiment le chaos là-bas. Et là, j'étais sur ma moto avec mon sac sur le dos. Et il y avait personne dans les rues et il y avait un truc un peu magique à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que j'avais enfin laissé tout ce qui me pesait depuis, enfin qui pesait tout ce que j'avais, tous ceux que j'avais rencontrés au Paraguay. Et je me rendais compte que ça faisait 2 mois que j'étais parti, que j'étais plus vraiment architecte, c'était fini, et que j'avais enfin lâché mes bagages de la France, psychologiquement en tout cas, et que le poker ça marchait bien et ça m'avait donné une sorte de liberté financière, on va dire. J'avais confiance, on va dire, en l'avenir, et j'avais ma moto qui me permettait d'aller où je veux quand je voulais, et en fait j'étais complètement libre, quoi. Et c'est pas juste des paroles, mais la liberté, je l'ai ressenti physiquement dans mon corps à ce moment-là, 2h du matin dans la nuit d'Asunción. J'ai ressenti une sorte de puissance incroyable dans mon ventre, dans ma tête, dans tout le corps, et j'en avais des frissons, quoi. J'en avais des frissons, c'était magnifique. Et en fait, une fois que j'ai connu ça, bah, tout le reste du voyage, c'est un truc qui m'a suivi, quoi. C'est la liberté. C'est là que je me suis rendu compte que la moto et tout ce voyage-là allait me rendre libre, quoi. Tu vois.
Et voilà. Cette liberté, on la ressent à te lire au travers des descriptions que tu fais des routes que tu suis, mm-hmm. bien que certaines réalités matérielles t'empèrent un peu.
Ah bah ouais, au début je suis comme un fou, quoi. Ouais. Et puis justement le lendemain je pars d'Asunción et voilà, j'ai la musique dans les oreilles, il fait beau, je suis en short, moi j'ai alors vraiment aucune protection, j'étais vraiment naïf, quoi, complètement naïf à l'époque. Et puis je suis heureux, et puis à quelques kilomètres de la frontière je me prends une bordure et je chute, quoi. Et c'est là toute première chute du voyage, quoi. Il y en a une dizaine.
Et ensuite, ton évolution de motard, hein, que tu cherches à t'équiper davantage.
Ouais,
s'il fait chaud, tu dis bon, je mets mes gants, surtout quand
ouais.
tu.
Ah, les gants, ouais. Bah, en fait, j'ai appris à mes dépens, quoi, à mes blessures, à mes cicatrices, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, enfin, au bout d'un moment, quand on s'éclate le genou, et quand on saigne partout, je veux dire, on se rend compte qu'il faut se protéger, quoi. Et malgré, en fait, là-bas, c'est assez étrange parce que, dans les pays les moins développés, en fait, Bolivie, Paraguay, etc. Il y a des mecs qui roulent sans casque, il y a des mecs qui roulent en tong, et c'est presque cool, en fait, et c'est trop bizarre, quoi. Et genre ouais, c'est cool, on roule, on se protège pas, mais et du coup quand on roule équipé, on se fait remarquer, mais en même temps il faut choisir, quoi. Soit on se fait tuer, soit...
ouais. C'est du poker,
et en fait
voilà, mais c'est un peu risqué comme coup de poker.
Tu dis la récompense est proportionnelle au risque,
ouais.
Et tu te réfères justement au poker
ouais.
Mais en même temps tu l'appliques à l'aventure, tu l'appliques
à la vie en général.
Voilà, à la vie en général. Et tu dis prenez des risques, sortez des sentiers battus, mais en même temps prenez des risques mesurés.
Bah selon vos, comment dire, selon votre confiance, on va dire, et selon votre connaissance. C'est-à-dire que je n'encourage pas les gens à prendre des risques, hein, mais j'ai juste remarqué, en tout cas au poker et de plus en plus dans la vie, que on n'a pas de récompense sans risque, en fait, tout simplement, et qu'à un moment, si on veut obtenir de la liberté, de la beauté, de l'amour, je sais pas quoi, bah il faut oser aller là où on n'a pas l'habitude d'aller, quoi. Et au poker, ça s'appelle le risk reward, c'est-à-dire que il y a une relation très directe et très mathématique entre le, comment dire, l'argent investi et le risque que représente cet argent et la récompense qui peut être espérée. C'est-à-dire que plus on prend des risques, plus on se rend disponible à une grande amplitude de gains, mais aussi bien dans le amplitude positive que négative. C'est-à-dire que on prend des risques, on va pouvoir gagner beaucoup ou perdre beaucoup. Et ça veut dire qu'il faut être, quand on prend un risque, il faut être conscient qu'on peut on va avoir une récompense proportionnelle, mais qui va être aussi bien positive que négative. Et la vie, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire qu'on prend le risque et on est conscient que, ok, on peut avoir des récompenses, c'est génial, mais on peut aussi se faire avoir aussi. Donc il faut le faire en connaissance de cause.
Et au travers de ce voyage à moto, mais mm-hmm. aussi lors des parties de poker, tu as pris quand même beaucoup de risques.
Ouais.
Et tu dis, j'ai survécu.
Bah j'ai survécu et je suis devenu plus fort, on va dire, quoi.
Alors. Voilà.
Mais ouais, j'en ai pris, ouais. C'est vrai que j'étais j'étais inconscient. Et en fait, c'était aussi ma naïveté, je crois, qui m'a rendu qui me faisait prendre tellement de risques, parce que en moto, bon voilà, après coup, je me dis j'étais complètement fou, quoi. Je roulais sans gants, enfin j'avais mon casque, quoi. En gros, j'avais un casque de mauvaise qualité, chinois, paraguayen, voilà. Et j'ai eu vraiment de la chance au début, mais c'est surtout au poker, en fait, que j'ai pris beaucoup de risques, parce que j'allais jouer dans des parties clandestines. En fait, parce qu'en fait, le poker est légal en Argentine, il est légal au Brésil, il est légal en Colombie, par exemple, mais il n'est pas légal en Équateur, il n'est pas légal en Bolivie, dans certaines parties de la Bolivie, enfin en Bolivie en général, et puis en Amérique centrale non plus, il n'est pas légal. Et moi, j'avais un blog à nourrir, et puis j'avais aussi envie de vivre un truc intense, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je joue en poker quand même. Et je suis arrivé dans des parties, dans des tripots, ouais, dégueulasses.
Ouais, alors voilà, moi j'ai des images de film. Alors c'est,
c'est
une salle en fumée.
Mais c'est ça.
5-6 mecs qui sont autour d'une table avec un revolver sur
je l'ai eu celle-là, le flingue.
Le flingue à droite ou à gauche.
Dans le nord du Pérou. J'ai eu le flingue. Mais j'ai tout.
La bouteille de whisky qui est sur la table et voilà.
Et plus qu'affinité.
Et plus ça finit. C'est ça.
Mais il y a vraiment matière à scénario.
C'est un scénario de film. Alors.
Ouais. Alors, juste pour raconter, je la raconte souvent, celle-là, mais c'est la plus folle, quoi. Dans le nord du Pérou, j'arrive dans un billard. Enfin, on m'a renseigné, on m'a dit là il y a du poker. J'arrive dans un billard et dans l'arrière-salle du billard, il y a des caméras qui filment l'intérieur. Donc je vois la salle avant de rentrer et c'est une salle cachée derrière le billard, quoi. Et à l'intérieur, je sais pas à quelle heure il était, il devait être 1h30 du matin, quoi. Donc c'était la nuit, etc. J'arrive, 5 Péruviens bourrus, vraiment les gens, heureusement je suis introduit. C'est-à-dire que j'avais déjà fait plusieurs erreurs avant et j'avais compris que l'erreur de base, c'est de pas être introduit. Il faut toujours avoir un contact direct fiable. Donc j'ai mon contact direct fiable qui m'introduit parce que jamais j'aurais voulu rentrer tout seul sans contact dans ce truc-là. Et les mecs sont, on est dans le nord du Pérou, en plus dans une région, on est vraiment en dehors des sentiers battus, on n'est pas dans les trucs touristiques, quoi. Et en fait, donc il y a les caméras qui filment la table, qui filment le billard et qui filment l'extérieur. À l'extérieur, il y a le parking. Et dans le parking, il y a des motos. Et il est genre 3h du mat. Et la partie tourne tranquillement. Voilà, j'ai gagné un peu d'argent, je suis content. Et à un moment, on voit une silhouette s'approcher des motos. Et les mecs se rendent compte tout de suite. Et ils sont vifs là-bas, ils sont vivos, on appelle ça. Ils sont vigilants. C'est le même que la dernière fois. Et apparemment ils le reconnaissent, quoi. C'est un mec, c'est un récidiviste. Et ils font ouais, c'est le même. Et on est en pleine partie, on est en train de jouer et tout. Et d'un coup, tous les cinq, ils se lèvent, ils soulèvent le grillage. Et j'entends une détonation, quoi. Et au début je me dis tiens, c'est un pétard, mais en même temps un pétard à 3h du mat, ça n'existe pas, quoi. Et ouais, et ils sortent, et moi j'ai peur, moi je reste à l'intérieur, quoi. Et au bout de 2-3 minutes, j'ose sortir quand même, et je vois les mecs revenir en sueur, tout transpirant et tout et épuisé, et ils font putain, on l'a raté, quoi.
Ah, donc c'est pas plus efficace qu'un antivol.
Non. Ils l'ont raté, et le mec il a son flingue dans la main, et puis il fait bon, on y retourne, on va jouer, il pose son flingue sur la table, et il fait on en était où. Et on continue à jouer, et le mec il fait ouais j'ai plus l'âge pour ces conneries, enfin voilà quoi, en gros, et il commence à parler c'était un truc de ouf, quoi. Et puis une heure plus tard j'ai dit bon messieurs c'était très sympa et je vais quand même y aller, quoi.
Mais voilà. tout ça vous allez le retrouver dans le livre, ouais. Parce que je vous incite vraiment à le lire, c'est un très dépaysant, c'est très intéressant, ça fait penser, et on aurait des heures pour
Moi j'en parle pendant des heures, moi s'il le faut.
Mais il va falloir. Jonathan, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une émission juste 8 heures. Consacrée, voilà. On le passera pendant les vacances. Ouais. Voilà. Bonne lecture à tous. Jonathan Salamon, récit d'un joueur itinérant. Check out.
Bonjour.
Eric, bonjour.
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 Alors, il y a 3 ans, vous étiez sur le départ pour un grand voyage, pas le tour de la Terre, mais presque.
Ben, on a essayé de... on est venu voir nos amis aux Zen avant le départ. On a fait un pré-départ en Allemagne, puis à Lille et un dernier à Paris. Et puis ensuite, on s'est évadé. On ne savait pas dans quelle direction, si c'était vers l'Afrique ou si c'était vers l'Est. Et donc, à ce moment-là, on était chargés comme des mules pour 4 saisons. Ah,
effectivement, je me souviens des motos qui étaient présentées aux Zen à Seclin, hein, avec les pneus de rechange et aussi la première aussi pour Miss M qui partait avec toi.
Oui, c'est ça, oui. Première expérience sur du long cours à moto.
Donc c'était ce qui était intéressant, c'est qu'on savait pas, on avait qu'un nouvel élément dans notre projet, c'est la Covid qui est apparue au milieu de notre projet, sans savoir si on aurait droit à un deuxième confinement. Donc nous, il n'était pas question qu'on soit confiné une deuxième fois. Donc on est parti en se disant ça va certainement refermer en France, donc il faut qu'on dégage. Et si ça confine en France, ça veut dire que ça va confiner partout ailleurs, puisque ça continue à diffuser sur l'ensemble de la planète. Donc on s'est dit il faut qu'on s'échappe, ce que l'on a fait.
Et je me souviens que vous ne saviez pas où aller.
Ben on a, si tu veux,
une idée, mais avec ce Covid, c'était un gros souci quand même.
On était équipé pour 4 saisons, comme je disais tout à l'heure, et donc au départ, il était prévu qu'on descende par l'Afrique de l'Ouest. Et on attendait une réponse de Mohamed VI pour savoir s'il rouvrait son pays. Et donc, il se trouve qu'en redescendant, Missem s'est blessé à Carcassonne. Et on s'est dit, sur une cheville, on s'est dit, bah, partir en Afrique avec une cheville en mauvais état, c'était pas très astucieux. Donc, on a changé notre plan de route. On s'est dit, plutôt que l'Afrique, ça va être l'Est, mais quel Est? Donc on n'en savait rien. Donc on avait prévu au départ de passer par l'Iran. Donc on nous attendait en Iran. Et puis finalement, on a traversé à toute allure pendant que les frontières se refermaient. Il a fallu bricoler avec les douaniers pour passer, même les surprendre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a réussi à passer certaines frontières. Et puis une fois arrivé en Turquie, on s'est retrouvé dans une sorte de cul-de-sac. La Syrie était fermée, l'Irak était fermé, l'Iran venait de fermer pour cause de pandémie, l'Arménie, c'est jamais ouvert depuis la Turquie, il restait la Géorgie. La Géorgie était fermée aussi, donc avec un réseau d'amis, on a réussi à déverrouiller ça et avoir une autorisation du Premier ministre pour entrer en Géorgie. Une fois arrivé en Géorgie, on était dans une nasse, et donc on a essayé de travailler pour s'échapper de là. Et la seule évasion possible était de mettre nos motos dans un avion cargo qui transportait du bétail pour l'Asie centrale, et donc caché au milieu des vaches. On a transité par l'Azerbaïdjan. Alors l'Azerbaïdjan, pour nous, c'était une problématique. Pour Mallory, qui est d'origine arménienne, donc tout nom arménien écrit sur un document posait problème. Donc il a fallu cacher tout ça pour aller se planquer au Kyrgyzstan, où on s'est dit on va passer 2 mois, on redescendra ensuite. Et puis il se trouve qu'au Kyrgyzstan, je me suis mangé une voiture, et donc je me suis cassé une clavicule. Donc il a fallu je pouvais pas revenir en France pour faire opérer, et puis c'était pas souhaitable. Donc on s'est réparé. On a réparé la moto, et puis en faisant venir un gars qui se faisait passer pour un homme d'affaires avec nos amis, dans ses valises, il avait une fourche que Roadster 92 nous a aimablement donnée. Et puis de fil en aiguille, on est redescendu sur l'Ouzbékistan. Nous voulions passer au Tadjikistan pour aller en Afghanistan dans le corridor du Waran. C'était là, on était en pleine actualité. On a les talibans qui ont commencé à bloquer toutes les frontières. Donc on a eu chaud, en fait. On a beaucoup insisté pour entrer au Tadjikistan pour faire les routes du Pamir. Et il se trouve qu'un gars est passé avec la Covid la veille. Et donc ils ont refermé complètement les frontières alors qu'on avait les visas, on avait tout. On n'a pas pu passer. Et donc après, on s'est évadé par le Kazakhstan. On a eu des accords particuliers avec nos amis qui sont en Russie, et puis donc on a eu droit à un visa qui nous a permis normalement de rentrer et sortir sur Vladivostok. Et puis à Vladivostok, comme la Russie était fermée pour cause de pandémie, il n'y avait pas de sortie au bout de Vladivostok, donc on n'avait aucun moyen de rentrer, de revenir. En plus, on n'est plus en rond. Et donc on a envoyé nos motos à crédit, on peut dire à crédit, puisqu'on paye à réception en Afrique du Sud. Et donc il nous restait, on n'avait plus en rond, donc soit on se faisait piquer nos motos en Russie, soit on se faisait piquer nos motos en Afrique du Sud si on n'avait pas l'argent pour récupérer. Puis finalement, on a eu cet argent-là. On a passé plus de temps que prévu en Afrique du Sud. On a même plus de temps que prévu, puisque à cause de la Covid, de l'Omicron, on s'est retrouvé dans une zone de lockdown sur Cape Town. On n'a pas pu faire changer prolonger nos visas. Donc on s'est retrouvé overstay, c'est-à-dire en dépassement de visa de 47 jours. Donc on est interdit maintenant pendant 5 ans. Donc on s'est échappé sur la Namibie sans savoir si on pouvait revenir. Et puis de la Namibie, on a fait Zambie, Malawi, et on est remonté par l'est jusqu'en Éthiopie. Éthiopie, on n'avait plus, c'était assez compliqué parce qu'il n'y avait plus d'essence. Alors on peut se dire, c'est comme en France, quoi. Mais donc on n'avait plus d'essence et la guerre civile était quand même toujours un peu là. Donc on s'est échappé. On a fait un grand coup de râteau. On est passé d'est en ouest grâce à nos amis, grâce à un vol bien négocié péniblement pendant 3 jours avec Air Air Ethiopia, qui est passé d'un devis à 3000 à une facturation à 9000. Et alors qu'on n'avait pas d'argent, nous, hein, donc on avait à peine les 3000 pour. Donc on s'est, pendant 3 jours, ça a pinaillé. Puis finalement, on s'est retrouvé à remonter par la Mauritanie, Sahara occidental, Maroc. Et voilà, on est remonté par là. 65 000 kilomètres. On devait passer 14 mois sur la route. On a passé 21 mois. Donc voilà, on a une expérience assez grandiose du passage de frontières. Alors il y a des passages de frontières différents que l'on soit... En Asie centrale et avec des ex-républiques soviétiques qui sont très, très organisées. Et l'Afrique qui est un peu plus folklorique, mais bon, voilà, on sait que même sans être vacciné, parce qu'on est parti, rien n'existait. Et donc, quand on a vu qu'on n'avait pas besoin, on a avancé. Donc, on s'est fait nos 21 mois sans vaccin sur toute la planète, avec tous les sous-variants, les variants, les sous-variants, et sans rien choper.
Ah, incroyable, ça.
Voilà. Et le seul moment où on a chopé, c'est la Punta Mania. J'ai dû faire 2 bises et serrer 3 mains. Moi, j'ai chopé la Covid. Et bon, apparemment pour nous, ça n'a pas eu d'effet. Ça n'a pas eu d'effet. J'ai contaminé Mallory pour le fun, ce qui lui a permis de pouvoir retravailler, refaire son métier d'infirmière. Et puis bon, c'était une bonne nouvelle sans que ça soit trop coûteux physiquement, quoi. Mais c'était une histoire, une aventure assez extraordinaire.
An 80s rockstar. Canadian rockstar.
Eric Lobo et Mallory, hein. Mais Mallory, tu es parti avec Eric, c'était une première, c'était, tu as allé découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas.
Oui, tout à fait, à moto, donc, et puis à travers le monde, donc oui, une grande première. Et,
donc comment ça s'est passé, raconte-nous.
Eh bien, déjà, il a fallu que je m'habitue à cette moto qui est assez démesurée, qui est très lourde et très haute en tous les cas pour moi avec mon gabarit.
Alors, on précise que c'est une Harley Davidson. Hein.
Oui, une Harley un peu surdimensionnée puisqu'on les a rehaussées. Elles sont lourdes parce qu'on a beaucoup de matériel avec nous. On a beaucoup de choses, quatre saisons. Donc, elles font charger à peu près 450 kilos. Et le problème que j'ai, c'est que c'est une moto qui a été poncée et conçue par des hommes. Donc moi, je touche à peine le sol. Donc 450 kilos sur une pointe de pied, c'est un peu compliqué par moment. Voilà. Donc, et puis après, on s'y fait. Après, on s'habitue. Et puis au final, on l'aime, quoi, cette moto. Voilà.
Donc finalement, ce voyage, qu'est-ce que tu peux maintenant, finalement, quand c'est terminé, qu'est-ce que tu peux en dire?
Ben, je peux en dire, c'est difficile, mais c'est exaltant et que le monde est beau et que les gens sont merveilleux.
Tu m'as dit que tu avais rencontré des gens merveilleux, des gens qui sont très gentils dans le monde et qu'on ne retrouve pas ici en Europe.
Exactement, j'ai été agréablement en tous les cas, c'est vrai que j'ai été ému presque partout de cette fraternité, générosité. Nous, il faut comprendre qu'on part avec une effervescence en Europe, donc par la pandémie, par plein de choses, et on se retrouve à franchir les frontières et à traverser le monde et la planète, et on est tantôt les sauveurs, tantôt les messagers de la liberté, on est accueillis les bras ouverts, on nous aime, et c'est quelque chose qu'on perd, je trouve, en France, quoi, cette fraternité, cet élan de générosité, cette envie de discuter, de partager, et ça, c'est merveilleux. Quoi.
Très bien. Sur ces deux ans d'aventure, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est resté dans la tête?
Ouais, déjà, les paysages, c'est vrai que...
Est-ce qu'un pays t'a marqué plus qu'un autre?
Il y en a quelques-uns comme ça. Effectivement, là, ça fait à peu près un an qu'on est revenu. Alors, on m'a posé cette question dès qu'on est revenu. C'était trop difficile à répondre. Aujourd'hui, je sais que j'ai un vrai engouement pour quelques pays. Tout est beau, mais effectivement, pour des raisons différentes, moi, j'ai aimé et adoré la Géorgie. Donc la Géorgie, c'est pas loin de chez nous. Il faut y aller. En tous les cas, c'est merveilleux, c'est beau, c'est des paysans, les gens sont splendides. J'ai adoré le Kyrgyzstan, qui est encore un peu connu sans être trop connu, et c'est très sauvage. Les gens sont authentiques. La Russie, pour cette générosité et vraiment cet élan de fraternité. C'est vraiment un pays, déjà, il est immense et il est varié. Et les gens sont vraiment gentils. Et si on peut parler d'Afrique, je dirais la Namibie, c'est grand, il y a peu de monde et les paysages sont splendides.
C'est fantastique. Une toute dernière question. Est-ce que demain, Eric te propose de repartir pour un autre voyage?
Peut-être que je le proposerai avant.
Bon, très bien, merci Mallory. Bon voilà, Eric, toutes ces aventures, tu vas les retranscrire sur un livre et aussi sur un film.
Alors ce que l'on a fait là sur depuis le retour, on avait beaucoup de matériaux, on avait beaucoup de vidéos et d'images puisqu'on a ramené à peu près 30 téra, donc ça fait quand même je sais pas plus de 100 000 photos, plus 8 000 vidéos, donc c'est vraiment très très riche. Donc on a commencé par faire un livre photo qu'on a appelé un Stoppable que l'on vend sur notre site exclusivement, qui est une sorte de série limitée haut de gamme. Bon, c'est donc ça, on a fait ça sur il y a eu donc 8 mois de travail, donc c'était quand même très très riche et très et puis on a même mis beaucoup de textes et là on raconte ce qui s'est passé. Et la différence du récit qui est en cours actuellement, c'est comment ça s'est passé, c'est-à-dire je suis sur 500 pages d'écriture pour l'instant, il me manque encore 200-300 pages pour faire un gros récapitulatif très à la première personne, très un peu trash parce que c'était quand même une période compliquée. Et puis en même temps, je suis en train d'assembler mes images et d'en faire une vidéo qui va durer, je pense, au moins 1h30, j'imagine. Donc ça va être... on n'arrivera pas à faire moins. Alors on va voir si on fait juste une vidéo de... On va voir si on fait juste une vidéo du RA3. Attends. Si tu fais juste une vidéo du RA3, ou si on fait... voilà, ou si on fait donc d'un Stoppable, ou si on fait une vidéo de Rod Angel avec les 3 chapitres, 1, 2, 3, pour mesurer l'impact de cette aventure qui aura duré pratiquement 12-13 ans sur la route avec des pauses. Les pauses, c'était les périodes de production. Mais en fait, ce voyage est tellement différent de la vie que j'avais avant que on est sur une aventure assez longue sur trois tours du monde qui commencent à avoir qui ont de l'allure, quoi. Donc, par leur particularité, c'est qu'elles reflètent chaque fois un épisode de la vie important. Un parle de la résilience, l'autre d'une promesse que j'ai faite à mon père d'aller rouler sur l'Arctique. Et le troisième, c'est un voyage à deux où il s'est passé énormément de choses, quoi.
Eric, il reste encore des choses à découvrir pour toi sur cette Terre ?
Sur la planète, pour l'instant.
La planète.
Pour l'instant, je n'ai fait que 170 pays. Il m'en manque encore 26 qui sont en Afrique.
Oui.
Donc pour l'instant, il y a 170 pays. Maintenant, les pays les plus compliqués à faire, ça va être des pays d'Afrique. Tiens, je pense d'ici un an et demi, dès qu'on aura fini de diffuser le travail que l'on a fait à travers que ce soit les photos, les récits et les vidéos. Donc je pense qu'on a encore pour un an de boulot et à peu près une demi-année de... Après la préparation, après une demi-année de commercialisation, on va dire. Et puis ensuite, on a... après nous, les préparations, c'est assez vite. Hein. On est assez spontané, on charge la moto, on s'en va. Donc les directions, on verra déjà l'état de la planète à ce moment-là. Donc on pourra partir vers l'Asie du Sud-Est. Ça peut être une direction, certainement l'Amérique du Sud aussi. Peut-être l'Australie, on verra. C'est les deux petits... après, pour ce qui nous concerne, on va essayer de découvrir des pays que je connais peut-être déjà, mais qui ont déjà beaucoup changé, hein, puisque j'étais un ethnologue spécialiste de l'Asie. 20 ans plus tard, je pense que l'Asie a beaucoup changé. Donc, le partager cette expérience avec Mallory, ça sera assez extraordinaire. Donc partager cette expérience, ça sera une bonne expérience et une nouvelle expérience parce que ça sera une expérience à deux encore à moto. Donc je pense qu'on va se régaler parce que c'est des pays que je connais bien et donc ça me permet de rajouter une sorte de vernis ethnographique ou ethnologique sur justement ces voyages qui me permettent de comparer des ethnies d'il y a 20 ans, 30 ans et aujourd'hui, donc sur lesquelles il y a eu des évolutions majeures. Donc ça peut être intéressant.
Alors c'est ça, tu vas retourner
aux sources de mes premiers reportages.
D'accord.
Donc l'Amérique du Sud, c'est un endroit que je connais bien puisque j'ai eu dans ma vie j'ai eu la chance d'être le patron d'une entreprise immobilière de conseil sur toute l'Amérique du Sud. Et comme je suis pratiquement natif espagnol, pour moi, si j'attendais ça un peu à mettre à la fin pour parce que c'est des voyages plus faciles, parce que c'est des voyages qui se passent dans ma langue, donc j'attendais. Et puis après, il nous restera quelques pays d'Afrique à faire qu'on n'a pas fait encore sur l'Ouest. Et puis une fois qu'on aura fait ça, la boucle sera quasiment bouclée. Il restera encore des pays difficiles, mais bon, qui vont évoluer d'ici là. Donc on verra, quoi. La planète est encore grande et pleine de ressources et de plaisir. Et en fait, ce qui en fait sa valeur, c'est les gens que l'on rencontre. Donc forcément, des gens qui ont de la valeur humaine. Qui ont des cultures différentes, des façons de penser différentes, c'est très intéressant. Et c'est très à la mode en ce moment, en plus, de penser un peu différemment du narratif commun que tout le monde a envie de faire. Notre monde a envie d'imposer. Donc ça, c'est intéressant.
Ouais, d'accord. Dis la vidéo que tu es en train de préparer. Comment tu vas la présenter? Tu vas faire un tour de France? Tu vas aller dans les endroits branchés moto voyage?
Je pense que ça va être ça. Ça va être d'abord dans les concentrations. Ça va passer par le net beaucoup. Et puis je sais pas encore parce que ça va dépendre de, si tu veux, on est encore un peu tout frais avec notre matière première qui est l'image que l'on a ramenée de ce voyage. On a des partenaires comme Leica par exemple. On peut décider par exemple de faire une expo photo ou un livre photo avec pourquoi pas le film accompagnant le livre photo. Donc on a déjà beaucoup de On a beaucoup de possibilités différentes. Donc ça va dépendre un peu aussi de l'opportunité que l'on a avec nos partenaires de faire telle ou telle manière. Donc nous, on est assez flexible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de souplesse. Donc c'est pour ça qu'on est efficace, quoi. Donc ça va. Je crois qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi. Il suffit de composer ensemble et de marier nos énergies ensemble. Et ce qui est important, c'est que si on arrive à faire converger nos énergies sur une manifestation, des expos photos, des manifestations de moto, des anniversaires, c'est une possibilité de faire des belles choses. Et en fait, on a de la très belle matière parce qu'on a travaillé avec du très bon matériel.
Ce voyage, ces voyages, tu les fais toujours en Harley-Davidson?
Alors pour l'instant on n'a pas changé, en tout cas.
Tu pourrais nous dire si c'est costaud, c'est solide finalement ces machines américaines.
La question qu'on nous pose souvent, c'est alors quelle sorte de panne, alors t'es très bon en mécanique, quelle sorte de panne t'as dû régler, les plus difficiles c'est quoi? Les plus difficiles c'est de mettre de l'essence et de mettre de l'air dans les pneus, donc c'est un peu tout ce qu'il y a de plus difficile. Après le reste c'est des machines qui roulent, donc 1750 cm3 pour un trail, bon ça le fait quand même, même si ça pèse 450 kg, ça passe partout, ça voyage bien. Bon, on a pas grand chose à dire techniquement. Alors après on se prend des pelles.
Alors là c'est pas des trails, hein, c'est modèle
C'est pas des trails, mais c'est un street bob, une moto pour la ville, transformée comme un gros trail, qui a un peu la... Quand on le regarde un peu, la géométrie avant l'heure de la Panamérica.
Oui, alors je vais en arriver là, parce que justement, pendant que tu étais en voyage, Harley Davidson a sorti son trail, la fameuse Panamérica.
Exactement.
Une moto qui, toi, pour faire ce que tu fais, tes voyages, serait peut-être plus approprié.
Alors c'est oui et non, c'est-à-dire que oui pour le franchissement, le plaisir de rouler, le côté trail, mais après ce que je ne sais, moi je dans le type de voyage que l'on fait, on fait des voyages quand même assez extrêmes et on n'a pas de... moi j'ai une très très bonne connaissance de ma machine, donc je sais qu'elle a une solidité à toute épreuve puisque mon moteur et mon cadre résistent à ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Et donc, elles ont déjà 2 tours du monde, 3 tours du monde avec celui-là, donc je sais que ça marche. Ouais. Les autres...
Là, tu sais pas.
Les autres, tu vois, j'essaierai... Tu vois, je joue ma vie, c'est ce que j'explique parfois. Quand je roule sur la glace, avec des motos de 450 kg, j'ai certainement plus d'équilibre et de ressources qu'avec une GS, par exemple.
Small town blues. You gotta get straight out of Dodge. You know you've done it, paid your dues. You ain't got nothing else to lose. You better run for your life. Yeah. You better hold on tight. Moving at the speed of light. Moving at the speed of light. Big city destiny. You know it's written on your face. Yeah. Take your life in the slow lane. Slowing down will be a crying shame. You better run for your life, yeah. You better hold on tight, moving at the speed of light. Moving at the speed of light, yes I am.
Oui, on parlait de ces motos Harley-Davidson. Finalement, est-ce que c'est des motos qui sont fiables pour faire ce type de voyage?
Alors, le principe est assez simple.
Et si je pose la question, c'est pour éventuellement d'autres personnes qui voudraient se lancer dans l'aventure.
Absolument. Donc, s'ils veulent se lancer en Harley, c'est absolument possible. Ce qu'il y a, c'est que s'ils doivent faire un peu d'off-road, et que ce sont des modèles Softail, par exemple, il faut s'équiper d'un bon amortisseur arrière, parce que ça, c'est quand même important. Mettre un système de chaîne, parce que c'est quand même plus...
Que la courroie.
C'est plus adapté, parce que le jour où il faut démonter, c'est compliqué.
Ouais.
Mais sinon, à part ça... Je vais faire une recommandation qui est complètement anachronique. Je conseille des jantes à bâton plutôt que des jantes à rayon. Et je conseille, en tout cas pour les Harley, plutôt en tubeless. Donc tubeless et jantes à bâton. Et ça supprime beaucoup de problèmes, en tout cas. Et c'est pas moins solide. Il faut juste rester au clair avec la pression des pneus pour éviter de prendre des impacts assez forts sur l'aluminium, si c'est de l'aluminium, ou bon, après si c'est de la fonte, ça risque rien. Mais voilà, ça c'est une première recommandation. On peut faire une reprogrammation partielle de la carto pour accepter un indice d'octane plus faible. Ouais. Moi, j'ai eu la chance ou le hasard m'a poussé à mettre du 80 dans ma moto. Ouais. 80, ça n'a posé aucun problème. J'ai juste consommé un peu plus.
Ça, c'est le souci quand tu voyages. Bah, tu peux trouver la qualité d'essence qui est pas identique dans
alors,
ta pays.
Il y a plusieurs choses. Alors, par exemple, en Ouzbékistan, le problème il était encore plus complexe, c'est que c'est un pays qui fabrique du gaz, donc toutes les voitures fonctionnent au gaz, et donc dans toutes les stations, il y a des stations au service de gaz, mais il y a pratiquement jamais d'essence, quoi. Donc, alors je sais pas si de temps en temps il y a une pauvre, une pompe de gasoil, et puis quelquefois une pompe d'essence, donc c'est là il faut pas se là on peut être surpris de se retrouver à sec. Donc nous on a transformé nos réservoirs pour avoir une autonomie d'environ 22 litres, c'est à peu près on est passé de 17 à 22. Ça nous amène à 450 km avec deux jerrycans à l'arrière, on arrive à peu près une autonomie de 600 km. Donc 600 km ça va, quoi, c'est quand même assez confortable. Si vraiment on identifie sur le parcours devoir faire une distance plus longue, à ce moment-là, on prend des jerrycans, on rajoute un peu d'essence sur le portage. Ça, il faut imaginer que les jerrycans, si c'est pas nécessaire, ne pas l'emporter. Si c'est nécessaire, il faut l'emporter. Si c'est pas nécessaire, on a un cocktail Molotov au cul. Et si donc ça peut être gênant.
Ouais.
Et voilà, il faut toujours, bien réfléchir à l'utilité de ce que l'on transporte et de préserver, et d'avoir toujours du carburant pour avancer, de l'eau pour boire, et puis après le reste. De l'électricité pour charger le matériel photo, et puis ou des batteries ou des panneaux solaires. Il faut toujours essayer d'être autonome le plus possible. Et après, bah, si on a la chance de pouvoir dormir au sec, dans le dur, bah, on dort dans le dur. Si on n'a pas cette chance-là, bah, on dort où il y a de la place, quoi. Et puis la chance que l'on a, c'est d'être étranger en voyage, et donc généralement c'est plutôt toujours assez facile d'être accueilli quelque part. Donc il y a rien de compliqué, il suffit d'être ouvert, d'avoir un esprit ouvert, de pas avoir de contraintes, et puis d'être facile. À partir de ce moment-là, tu vas partout, et puis les gens ne demandent que ça, quoi, de partager un moment avec toi, parce que toi tu transportes ta culture, donc ils en sont friands, et nous on va vers leur culture, donc ces échanges,
un
échange de tradition, de culture, de civilisation, c'est quand même de regard sur le monde, d'interprétation de la vision du monde, et puis après effectivement on a des oppositions de civilisation qui sont vachement intéressantes, et des regards sur le monde qui sont vraiment très 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 variés, très différents, et qui nous remplissent, hein. Donc c'est ça qui est intéressant.
Alors,
pas tellement la destination, en fait.
Ouais.
Donc non, mais ce qui est intéressant, c'est l'ouverture de, que l'on a pu avoir avec Mallory, d'aller vers trouver des solutions assez inédites pour des franchissements de frontières, pour se démerder, pour rentrer dans un pays qui est fermé. De trouver des passages, de s'organiser ensemble pour savoir bon, on va où, on fait quoi. Alors même si souvent on nous laisse pas tellement beaucoup d'options, bon bah c'est
non, moi j'allais dire que pour ce qui est effectivement de porter cette marque, en tous les cas Harley, j'ai rarement vu, et pourtant on en croise du monde, quelqu'un qui aime autant cette marque. Voilà, moi je suis un peu plus, c'est vrai, ouverte peut-être parce que voilà, j'aime bien aussi voir tout ce qui se passe. Eric est quand même très Harley Davidson, et c'est vrai que quand je soumets des fois l'idée, peut-être qu'on pourrait, bon, 3 tours du monde en Harley, peut-être on pourrait éventuellement voir ce qui se passe un peu ailleurs, quoi. On adore cette marque, hein. Eric est un peu plus réticent. Voilà.
Moi je te propose la moto qui fait le top froid, c'est la GS 1200 GS.
Non,
parce qu'on voit partout en fait.
Non, alors il y a plusieurs raisons pour moi. Ouais. La première raison, c'est que je pense que c'est une moto qui est de toute manière tellement faite pour ça, qu'il n'y a pas de gloire à faire certaines choses. La deuxième chose, c'est que sa fragilité, je pense qu'elle est beaucoup plus fragile entre son électronique et la matière dans laquelle elle est conçue. Elle est beaucoup plus fragile que notre bonne ferraille américaine qui résiste à tout et qui se soude n'importe où. Souder de l'aluminium, c'est un peu plus compliqué, il faut du matériel à adapter. Donc moi je suis, parce que même malgré mon âge et mon expérience, des pelles, je prends des vraies pelles. Donc j'aurais peur de... Et moi je viens du monde du motocross, donc casser des machines, je sais faire. J'ai peur qu'elle soit un peu trop fragile pour moi. Comme pourrait l'être un peu fragile la Panamérica, que j'ai eu la chance de... avec laquelle j'ai eu la chance de rouler, avec laquelle j'ai eu la chance de faire des choses, mais elle me paraît un peu fragile par rapport à ma... Alors moi je suis un comme dirait certains enfants que j'ai vus, c'est un bûcheron du tout-terrain. C'est-à-dire que je vais dans le dur, puis bon, je ménage pas tant que ça. Même si je ménage beaucoup, je suis quand même assez brutal. Parce que là où on va, malheureusement, on n'est pas toujours avec la subtilité. Donc on est un peu obligé d'aller dans le dur avec dureté. Et j'ai peur que cette machine ne tienne pas. Alors, peut-être qu'elle va me faire mentir, peut-être que on va envoyer nos motos aux États-Unis, on va voir ça avec la famille Davidson, on va envoyer les motos au musée, et puis peut-être qu'on partira avec deux Panamérica et qu'on fera...
Hein ? Deux Panamérica américaines.
Deux Panamérica américaines, puis on fera, fera quelque chose, et si on casse, ben on réparera comme on s'est toujours démerdé avec le reste. Donc ça, c'est peut-être aussi une voie. Mais je pense que c'est avec les Américains qu'on verra ça. Voilà, pour l'instant, c'est dans cet axe-là que je vois une possibilité de repartir avec des machines qui nous ressemblent, en fait.
D'accord. Merci, Eric.
C'était un plaisir.
Merci, Mallory.
Merci.
Ouais, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait, avant de se quitter, on pourrait peut-être rajouter aussi peut-être un dernier mot.
Eh ben, très vivement, vite, alors, très vite. Qu'on reparte.
Voilà. Merci, merci, merci à vous deux.
It hits the ground. You never had much to say.
Voilà, l'émission se termine. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, 11h, sur la plus libre des radios. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer une excellente semaine. Bye !